Bonjour à tous.
C'est bon, on est connecté, on est ensemble, vous m'entendez bien?
Très bien.
Bonjour les enfants. Vous vous souvenez de la dernière fois où on était ensemble? Comme ça, oui, vous vous souvenez? Quand est-ce que c'était? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Pour ceux qui savent, pour ceux qui se souviennent, quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? Vous étiez assis comme ça en bas et puis... C'était quand? Vas-y, dis-moi.
En décembre,
et c'était à quelle occasion en décembre?
Pour fêter Noël.
Pour fêter Noël, pour la fête de Noël, effectivement. Et donc c'était il y a 4 mois, et aujourd'hui on fait une autre fête. On célèbre une autre fête. Alors j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous savez c'est quoi la fête? Ah bah voilà, la réponse a été donnée. Tant pis pour les enfants sages qui ont levé la main pour donner la réponse. C'est la fête de Pâques, c'est aussi une fête très importante. Généralement, Noël, les enfants, ils connaissent bien l'histoire de Noël, ils connaissent bien l'histoire de la naissance de Jésus. Je me souviens que quand j'avais posé des questions pour savoir quels sont les personnages de Noël, vous aviez dit à peu près tous les personnages qui interviennent dans la fête de Noël. Il y avait Hérode, Joseph, Marie, Jésus, bien évidemment, et puis les mages, on avait parlé des mages. Mais en ce qui concerne Pâques, est-ce que vous connaissez aussi les personnages et les événements qui ont eu lieu à Pâques? Est-ce que vous avez des idées? Alors, on va commencer par toi. Alors, il y avait Jésus. Alors, bon, bah, ok. Est-ce que tu as une autre réponse à donner? Vas-y, Élise.
Ses disciples.
Ses disciples, alors, ils sont à Pâques aussi, effectivement. D'autres suggestions? Vas-y, dis. Les gardes du tombeau, effectivement. Alors, ça, ce sont plutôt les personnages, mais les événements, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, qu'est-ce que Jésus il a fait avec ses disciples, puisque tu as parlé des disciples? Il a donné le pain et le vin, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre autrement? Dans quel endroit il est allé aussi avec ses disciples, après avoir pris le repas?
À Jérusalem.
Alors, il était à Jérusalem, mais il est allé dans un endroit particulier. Est-ce que vous vous souvenez? Dans un jardin, c'est ça, dans un jardin où il est allé prier avec ses disciples.
Dans le jardin de Gethsémané.
Dans le jardin de exactement. Est-ce qu'il y a d'autres événements? Qu'est-ce qui s'est passé après le jardin? Alors oui, c'est ça. D'abord, il a été arrêté. Il y a des gens qui sont venus le chercher. Il a été jugé. Et puis après, comme tu l'as dit, il a été cloué à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Est-ce que vous connaissez d'autres choses qui se sont passées? Attends, est-ce que je... Ouais, vas-y. Ah oui, alors là, on retourne en arrière. Effectivement, il était monté sur un âne. Il est entré à Jérusalem assis sur un âne. Mais tu as tout à fait raison. Mais si on revient à la croix, alors là on en est arrivé au moment où Jésus est sur la croix, et qu'est-ce qui se passe? Ah, alors, vas-y, je te redonne la parole. Il a eu la couronne d'épines.
Il a été mort.
Il a été mort, c'est vrai, bah oui. Vas-y, une autre. Il a été mis dans un tombeau, ok. Et puis après, on va aller jusqu'au bout quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, vas-y, t'as pas encore eu la parole. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il est mort?
Il y a Marie-Madeleine qui sont venues au tombeau et il
n'était
plus là.
Et, excellent. Et pourquoi il n'était plus là?
Il y a un ange qui est arrivé et il leur a dit qu'il était ressuscité.
Voilà, il y a un ange qui est arrivé. Je ne sais pas si tout le monde entend, mais c'est Léa qui dit qu'un ange a été ressuscité. Un ange est venu. Et l'ange a dit aux femmes qui étaient là que Jésus était ressuscité. C'est toi qui as la bonne doctrine. Mais il y a un événement que vous n'avez pas mentionné et sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui. Ah, peut-être qu'il est là. Alors, c'est le rideau qui s'est déchiré. Effectivement, dans l'évangile, il est dit, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, les versets 37 et 38, on va les lire ensemble. Jésus poussa un grand cri et mourut. C'est lorsqu'il était sur la croix. Et voilà ce qui s'est passé au moment où Jésus est mort. Le voile suspendu dans le temple, ou le rideau suspendu dans le temple, se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'était quoi le temple? Est-ce que vous savez ce que c'était le temple de Jérusalem? Vas-y, dis-moi. C'était? Il faut que tu parles plus fort. C'était un endroit pour prier. Et pourquoi est-ce qu'on allait prier dans le temple de Jérusalem? Pour se rapprocher de Dieu. Parce que le temple, c'était comme si c'était la maison de Dieu. Et à l'intérieur du temple, je vais vous montrer une photo. voyez, le temple, ça ressemblait à ça. Ça, c'est une grande maquette qui représente le temple tel qu'il existait à l'époque de Jésus. Il y avait une grande cour comme ça. Là, il y avait plusieurs portes par lesquelles on pouvait entrer. Et le temple lui-même, il se trouve ici. Et quand on entrait dans le temple, il y avait deux pièces. Il y avait une première pièce, si tu peux mettre la diapo d'après, ça va nous permettre de mieux comprendre, qui s'appelait le lieu saint. Et puis, il y avait une deuxième pièce qui était dans le fond du temple, qu'on appelait le saint des saints. Et ces deux pièces étaient séparées par un immense rideau. Vous avez une idée des mesures de ce rideau? Est-ce que vous avez une idée de la hauteur du rideau, par exemple? Allez, vous avez le droit, moi je vous dis plus, je vous dis moins. Tu dirais combien de mètres?
12.
12 mètres, plus que 12 mètres. 20 mètres, un petit peu moins. Vas-y.
19.
Oh, un tout petit peu moins. 18 mètres. C'est un rideau qui faisait 18 mètres de haut. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, je sais pas, là, il y a à peu près 3 mètres de haut. Donc, vous faites 3 fois la hauteur jusqu'au plafond, là. C'est comme, c'est grand comme une maison à plusieurs étages, 18 mètres. Est-ce que vous avez une idée de la largeur du rideau? 18 mètres de haut, mais combien de large?
15 mètres de large.
Moins que 15 mètres. Moins que 14 mètres. Attends, parce que... Vas-y, toi. Moins que 13 mètres. qui n'a pas encore parlé? Un tout petit peu moins que 10 mètres. 9 mètres. 18 mètres de haut, 9 mètres de large. Est-ce que vous avez une idée de l'épaisseur du rideau? Moins que 30 centimètres. Déjà, 30 centimètres, ça, c'était costaud, hein. Alors, qui n'a pas encore eu de... Vas-y. 27 centimètres. Non, beaucoup moins que 27 centimètres. Moins que 15 centimètres. Voilà, t'as raison. 10 centimètres d'épaisseur. 18 mètres de haut, 9 mètres de large et 10 centimètres d'épaisseur. Vous imaginez un peu le rideau. Est-ce que vous avez des rideaux de 10 centimètres d'épaisseur dans votre maison? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des rideaux de 10 centimètres d'épaisseur. Ça veut dire que ce rideau-là, pour l'installer, il a fallu des dizaines et des dizaines de personnes pour pouvoir le hisser et pour pouvoir le porter même, 10 cm d'épaisseur. C'est énorme. C'est quoi l'épaisseur? La hauteur, la largeur et l'épaisseur. Est-ce que j'ai bien expliqué? Tu vois ce que... Ok, on va passer à autre chose. Donc, un immense rideau. Et dans cette pièce, le Saint des Saints... Il n'y avait rien, sinon un seul objet. Le seul objet qu'il y avait, tout au fond du temple, c'était, tu sais, c'est quoi? Alors, à l'époque de Jésus, il n'y avait plus, le coffre, il avait disparu, l'arche d'alliance ou le coffre de l'alliance, il avait disparu à cause d'une guerre, mais on avait gardé le couvercle. Et donc, à l'intérieur du Saint des Saints, derrière le rideau, il y avait le couvercle du coffre de l'alliance, dans lequel les tables de la loi qui avaient été écrites par Dieu étaient rangées. Et vous savez que personne n'avait le droit de passer derrière le rideau. C'était interdit. Vous savez pourquoi? Ouais. Pour éviter de voler le couvercle. C'est pas tout à fait ça. Et c'est bien réfléchi. Mais tu sais, il était très très lourd et c'était difficile à voler quand même. Excellent, c'est ça. Ah. Là, notre ami a dit pour que personne ne puisse découvrir le secret de Dieu. En fait, c'était, j'ai dit tout à l'heure que le temple, c'était la maison de Dieu. Et le Saint des Saints, c'était le lieu où Dieu était. Le lieu où Dieu était présent. Dieu, il est pur. Dieu, il est parfait. Dieu, il n'a jamais fait le mal. Mais par contre, les hommes, eux, ils ne sont pas purs. Ils ne sont pas parfaits. Ils font le mal, ils pensent le mal. Donc, ce n'est pas possible pour Dieu de pouvoir accueillir, de pouvoir supporter la présence de quelqu'un qui fait le mal. Vous comprenez? Je vais vous raconter une petite histoire pour vous aider à comprendre ça. Lorsque j'étais au lycée, j'étais à l'internat. Donc, ça veut dire que du lundi au vendredi, je dormais dans l'école. Il y avait des chambres, il y avait une trentaine de chambres dans un grand couloir de part et d'autre. Et puis, donc, on vivait là pendant toute la semaine. Et c'était des petites chambres. Je ne sais pas combien ça faisait, mais de mémoire, ça faisait moins de 10 mètres carrés à peu près. On avait le lavabo, et puis le lit, le bureau, il y avait à peu près ça qui pouvait rentrer dans la chambre. Et puis, il y avait quelqu'un qui était dans l'internat avec nous, et il se trouve que ce gars-là, c'était un internat de garçons, ce gars-là, il se lavait jamais. Je crois qu'en fait, la seule fois où il prenait une douche, c'est quand il rentrait chez lui le week-end. Mais du lundi au vendredi, il n'allait jamais prendre de douche. Alors, je peux vous dire qu'au niveau relations sociales, on optimisait le lundi. Parce qu'après, quand il rentrait dans la chambre, le mardi, le mercredi, c'était plus possible. C'était plus possible. Quand il venait dans ma chambre, je me souviens, c'est arrivé quelques fois, pour me donner un objet, il me dit, j'ai besoin d'un crayon rouge. Je lui dis, ok, tiens, prends le crayon rouge et retourne dans ta chambre. Parce qu'il ne sentait pas bon, ça ne sentait pas bon. Quand il venait dans ma chambre et puis qu'il venait faire la conversation, j'étais d'accord, toujours d'accord avec lui. Je disais, oui, oui, ok, ok, pour que vite la conversation se termine et qu'il retourne dans sa chambre. Parce que ça ne sentait pas bon. À chaque fois qu'il venait dans ma chambre, après, j'ouvrais la fenêtre. Parce que c'était insupportable, en fait, l'odeur. Donc, c'était plus facile d'avoir des relations avec lui au printemps, par exemple, que pendant l'hiver. Eh bien, en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est la même chose. Le mal que nous faisons, nous les hommes, eh bien, on ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. La colère, la critique, la jalousie, quand on ment, quand on désobéit, quand on triche, quand on se moque des autres, quand on vole, tout ça, c'est comme si c'était une mauvaise odeur qui se dégageait de nous. Et Dieu, à ce moment-là, il ne peut pas supporter. C'est comme si nous, on voulait venir dans sa présence, et pourtant, lui, il voudrait. Mais on ne peut pas parce que Dieu, c'est comme s'il disait « Non, non, c'est pas possible. Le mal que tu fais, je ne peux pas le supporter. On ne peut pas être dans la même pièce ensemble. » Et le rideau, c'est comme si c'était une porte qui était fermée parce que les hommes, nous, on ne fait pas tout ce que Dieu veut et on ne respecte pas toujours sa volonté, alors que lui, il aimerait. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que personne n'avait le droit de passer de l'autre côté du rideau. En réalité, il y avait une seule personne qui pouvait le faire. Tu sais qui c'est ? Aaron. Exact, le grand prêtre, le chef des prêtres, à l'époque des Juifs et à l'époque du Temple. Il avait le droit d'aller derrière le rideau une fois par an, et c'était un jour très précis, pour obtenir le pardon des hommes qui font le mal. Et pour cela, ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait tuer un taureau, et il devait asperger des gouttes de sang sur le couvercle du coffre dont on parlait tout à l'heure. Vous imaginez un peu... Ah oui, voilà, ça c'est une photo justement du coffre. Ça c'était le coffre de l'Alliance et il n'y avait plus que le coffre qui était dans le Saint des Saints à cette époque-là. Vous imaginez le grand prêtre, à chaque fois que cette date approchait, comment il devait être stressé. Je pense qu'il devait être comme ça, vous voyez le grand prêtre. Il s'est dit, oh aïe aïe, ça y est, le jour est venu, il va falloir que je passe derrière le rideau, sauf que... Je sais que je sens mauvais, je sais que je sens pas bon. Et toutes les personnes pour lesquelles je vais demander pardon à Dieu, ils ne sentent pas bon non plus. Alors, il fallait qu'ils prennent un maximum de précautions. Vous avez une idée de ce qu'ils devaient faire avant d'aller derrière le rideau ? Ils devaient se laver les mains. Pas que les mains. Les pieds ? Pas que les pieds. Ils devaient se laver tout le corps. Ils devaient prendre un bain tout entier. Pour paraître propre. Alors, c'était un symbole, bien sûr, mais c'était vraiment l'idée que pour venir dans la présence de Dieu, pour passer derrière le rideau, pour aller au-delà du voile, il faut que je sois propre. Vous savez aussi ce qu'il devait faire ? Il devait porter un vêtement spécial.
Comme le vêtement quand on prie.
Quel vêtement tu mets quand tu pries ? Tu sais pas, moi non plus. Il devait porter une tunique qui était faite dans un tissu spécial qu'on appelle le lin. Et de quelle couleur devait être ce vêtement ? Ni vert ni jaune. Ni violet. J'ai entendu. Blanc. Le vêtement devait être blanc. Il devait être blanc parce que un vêtement blanc, si c'est taché, on le voit. Donc encore une fois, il devait être complètement propre, sans tache. Non seulement il devait mettre une tunique en lin, un vêtement en lin, mais même les sous-vêtements. Dans la Bible, c'est marqué son caleçon, il devait être en lin. C'est vraiment très détaillé, hein. Sa ceinture devait être en lin, son chapeau aussi devait être en lin. Et une fois qu'il avait accompli tout ça, avant de passer derrière le rideau, il devait aussi se munir d'une petite boîte en métal qu'on appelle un encensoir, dans lequel il y avait des braises, et il devait mettre dedans du parfum. Et quand il passait derrière le rideau, il devait balancer l'encensoir, ça va rappeler des souvenirs à certains, et ça faisait une grande fumée qui remplissait toute la pièce et qui dégageait un parfum. C'est de la fumée parfumée. Et c'est comme si il devait se cacher derrière la fumée et que le parfum qui se répandait dans la pièce devait cacher la mauvaise odeur du mal qui était en lui. Et quand il avait rempli toutes ces conditions, il pouvait asperger le sang et après il repartait. Vous imaginez un peu le grand prêtre, une fois qu'il avait fait ça, il s'est dit « Oh, ça s'est bien passé. Cette fois-ci, c'était encore la bonne. » Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait toujours recommencer. Ça veut dire qu'une fois qu'il avait terminé, il se disait « Bah, dans un an, il va falloir que je recommence. Dans un an, il va falloir que je reprenne ce bain-là. Dans un an, il va falloir que je remette ces vêtements. Et dans un an, tout tremblant, il va falloir que je me présente à nouveau, que je franchisse la limite pour aller derrière le rideau. » Et c'est ce qui s'est passé pendant des années, même pendant des siècles. Et puis un jour, il y a Jésus qui est venu, le Fils de Dieu. Et il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu aime les hommes. Dieu a créé les hommes pour être en contact avec eux. Et le contact n'est pas possible. Alors, il faut que ça se termine. Il faut qu'il y ait une solution qui soit donnée une fois pour toutes. Alors, ce que je vais faire, plutôt que de tuer un taureau tous les ans et puis d'asperger comme ça quelques gouttes de sang, ce que je vais faire, c'est que moi-même, je vais me donner. C'est mon sang à moi qui va couler pour que les hommes puissent être propres une bonne fois pour toutes. Et s'ils sont propres, à ce moment-là, Dieu pourra les accueillir. À ce moment-là, Dieu pourra les entendre quand ils prieront. À ce moment-là, Dieu pourra se réjouir avec les hommes qu'il a créés. Et c'est ce que Jésus va faire. C'est comme si Jésus allait ouvrir le chemin qui mène vers Dieu, dans la présence de Dieu. Alors imaginez un peu, j'ai demandé à Pierre-Yves et à Victoria, si vous voulez bien venir. Jésus, il a été arrêté. On a mis les mains sur lui. On lui a mis la couronne d'épines, comme ça a été dit tout à l'heure. On l'a monté sur la croix. Et au moment où il a été sur la croix, vous savez, il a été cloué, alors son sang a coulé. Et Jésus a été pendant de nombreuses heures sur cette croix où il a eu mal, il a souffert, jusqu'au moment où il a expiré. Le sang a coulé. Et au moment où il a crié, c'est à ce moment-là, nous dit le texte, que le voile s'est déchiré. Ça fait comme ça. Et au moment où le voile s'est déchiré, c'est comme si on entrait dans le ciel. C'est comme si la porte du ciel s'ouvrait. Avant, ce n'était pas possible. Mais maintenant, grâce à Jésus, c'est possible. Il y a une petite différence, et on va voir si vous avez remarqué ça, entre ce que dit la Bible et puis ce qui s'est passé avec Pierre-Yves et Victoria. Une petite différence. Vous vous souvenez du texte qu'on a dit tout à l'heure sur le moment où le rideau s'est déchiré? Est-ce que vous avez remarqué la différence? Oui? Alors, c'est quoi la différence? Attends, je vais aller par là. Bien joué. Exactement. Ah, on a un théologien avec nous et c'est génial. Tu as tout à fait raison. Dans le texte, il est précisé que lorsque le voile s'est déchiré en deux, c'était depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le bas, c'est les hommes qui auraient pu le faire. Mais imaginez quand même un rideau de 18 mètres de haut, de 9 mètres de large et de 10 cm d'épaisseur. Bon déjà, il aurait fallu beaucoup pour arriver à le déchirer en deux, si c'était des hommes. Mais s'il est déchiré par le haut, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a déchiré le rideau. C'est Dieu lui-même qui accueille les hommes et qui leur dit « J'accepte ce que Jésus a fait. J'accepte ce que mon Fils a fait pour que enfin on soit ensemble. Enfin, on puisse se réjouir ensemble. Enfin, on puisse connecter ensemble. » C'est pour ça que dans la Bible, il y a ce texte qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux, où il est dit « Ainsi, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire par son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le cœur purifié. Terminez les bains, terminez les vêtements en lin, les vêtements blancs, tout ça. Maintenant, c'est notre cœur qui est purifié grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus qu'on est propre. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sent tous bon. On sent bon. Alors que Jésus, il était sans mal. Alors que Jésus, il était pur. Il était propre comme Dieu. Alors que Jésus, il sentait toujours bon. Jésus a accepté d'être sali. Et il a accepté de sentir mauvais pour que nous, on puisse sentir bon, qu'on soit pardonné du mal qu'on fait. C'est son sang qui a coulé à la croix qui a été aspergé pour qu'on soit pardonné. Alors maintenant, toi, moi, nous, on peut entrer dans la présence de Dieu. Ça paraît si simple quand on se dit, bah oui, Dieu, on peut le prier, on peut lui adresser notre prière, on peut... Mais en fait, tout ça, c'est possible parce qu'à un moment donné, Jésus, il a accompli cela. Jésus, il a accepté de faire ça. C'est pour ça que le voile s'est déchiré. Ça veut dire que Dieu n'est plus séparé des hommes. Et il accepte que tout le monde vienne dans sa présence. Il nous tend les bras comme ça. Il nous tend la main. Et on peut passer au-delà du voile, derrière le rideau. Je vais vous raconter une dernière petite histoire pour terminer. Il y a des très très longtemps en Chine, c'était des empereurs qui régnaient. Et les empereurs vivaient dans un immense palais. C'est un palais qui a été construit au 15e siècle, au centre de la capitale de la Chine. Vous savez quelle est la capitale de la Chine? Il y en a qui savent?
Le Japon.
Capitale de la Chine, le Japon. Pas tout à fait. Pékin. Voilà, vous avez une photo de cet immense palais que un empereur de Chine, un jour, a décidé de construire il y a au 15e siècle. Ce palais, il est grand comme 100 stades de football. 100 stades de football. Il est entouré de murailles qui mesurent 10 mètres de haut et 6 mètres de large. Dans ce palais, il y a 9 999 pièces. En fait, ils se sont dit, 10 000, ça va peut-être faire un peu prétentieux. Donc, on va faire 9 999 pièces. Il a fallu 14 ans pour construire ce palais. Et ça a nécessité le travail de 1 million d'ouvriers. C'est énorme. Et les empereurs de Chine ne sortaient pas de ce palais, ou que très rarement. Et surtout, c'était interdit pour les gens du peuple, pour les gens qui étaient en dehors du palais, d'entrer dans le palais. C'était même interdit de le regarder. Ça veut dire que quand quelqu'un passait à côté du palais, il devait faire comme ça. Il devait détourner le regard pour ne pas regarder le palais. Ils n'avaient pas le droit de regarder l'empereur et ils n'avaient même pas le droit de regarder le palais de l'empereur. Donc c'est pour ça que ce palais était appelé la cité interdite. Il y a une diapo après qui montre comment il était grand. Vous voyez un peu, sans stade de football. Donc tous les gens du peuple, les paysans, les ouvriers, les artisans, ils ne voyaient jamais l'empereur. Et comme les empereurs, c'était les Chinois les plus riches, dans ce palais, il y avait des tas de trésors. Alors, il y avait tellement de pièces qu'on pouvait entasser des trésors et des trésors. On trouvait de tout. On trouvait des vases, on trouvait des statues en ivoire, on trouvait des bijoux, on trouvait des objets en argent, en bronze, en or, bien évidemment. On trouvait des peintures, on trouvait plein de sortes de richesses comme ça. Ce qui fait qu'il y a un immense trésor qui s'est accumulé dans ce palais d'année en année et de siècle en siècle. Et il n'y avait que l'empereur qui avait le droit de voir toutes ces richesses. Et lui, il vivait dans cette opulence au milieu des parfums. Et puis un jour, 500 ans après que le palais ait été construit, en 1924 précisément, l'empereur qui régnait à ce moment-là a accepté d'ouvrir les portes de son palais. Et à partir de cette date, les gens ont pu entrer dans la cité interdite. Ils ont pu entrer dans cet immense palais. Et ils ont pu voir non seulement l'empereur, ils ont pu sentir les bons parfums qu'il y avait dans le palais, mais ils ont pu avoir accès à toutes les richesses qu'il y avait dans le palais. Aujourd'hui, c'est même devenu un musée. Tous les vases, tous les tableaux, tous les bijoux, tout ça, ils y avaient accès, ils pouvaient le voir et ils pouvaient en profiter. Eh bien, Cette histoire, elle nous permet bien de comprendre ce qui s'est passé avec le voile qui a été déchiré. C'est que grâce à Jésus, on peut rentrer dans le palais de Dieu. On peut rentrer dans la présence de Dieu. Et on peut profiter de toutes les richesses qu'il y a dans la présence de Dieu. Ça veut dire que, par exemple, si je suis triste, parce que Dieu, en Dieu, il y a la joie, je peux trouver la joie. Si je suis inquiet, parce qu'en Dieu, il y a la paix, je peux trouver la paix. Si je suis malade, parce qu'en Dieu, il y a la guérison, je peux trouver la guérison. Si j'ai la tristesse dans mon cœur, je peux trouver en Dieu la consolation. Toutes ces richesses que nous n'avons pas, auxquelles quelquefois nous n'avons pas accès, nous pouvons les trouver en Dieu. Et ça, on peut le recevoir quand on a confiance en Dieu, quand on place sa confiance en Dieu et qu'on s'adresse à lui. Parce que Jésus, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est lui qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Jésus est mort, mais Jésus est
ressuscité.
Jésus est ressuscité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, quand on a chanté et quand on peut venir devant Dieu pour lui demander son secours, son aide, tout ça, c'est grâce à Jésus. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on puisse dire merci à Jésus et qu'on le remercie en l'applaudissant très fort. Et on va le faire tous ensemble. On dit merci à Jésus. Merci d'avoir accompli ce que tu as fait.